largement dépassé. Donc, en préalable, puisque en plus, donc, le sujet apparemment intéresse beaucoup de monde, je ne sais pas du tout où vous en êtes dans vos établissements divers, si vous en êtes au stade de la réflexion, de la réalisation, mais à l'ENSIB, nous avons un groupe d'étudiants qui travaillent actuellement sur ce sujet de la formation des usagers en bibliothèque publique. Donc, qui font un travail, je dirais, de débroussaillage, c'est-à-dire depuis leur arrivée à l'ENSIB en janvier, essaye de dégager un petit peu des grands axes sur ce sujet. Il y a très peu de choses au niveau bibliographique, à part donc un BBF qui a été consacré à ce sujet, donc le BBF numéro 3 de 2002, qui faisait bien le point sur la question, mais il y a très peu de choses sur ce sujet en France. Donc ce groupe de 4 étudiants, dont 2 sont dans la salle aujourd'hui, noyés dans la masse, souhaiterait rencontrer ceux d'entre vous qui en sont d'accord ou tout au moins vous adresser un questionnaire sur le sujet de la formation des usagers en bibliothèque publique, donc pour étayer leur étude. Donc à cet effet, il y a une feuille, bon, qui n'est pas une feuille d'émargement, qui va circuler, et si vous êtes donc d'accord pour discuter avec ces 4 personnes ou remplir un questionnaire sur ce sujet, vous êtes gentil de noter vos coordonnées pour qu'elles puissent vous recontacter. Voilà, donc ça, c'était un préalable, un petit peu un préambule. Alors, si vous avez lu la liste des participants, enfin des intervenants à cette table ronde, il y a donc à ma droite Jean-François Jacques d'Issy-les-Moulineaux qui va se présenter dans quelques minutes. À ma gauche, Mamadou Seck de Vénissieux. Et puis, le troisième intervenant était François Michaud. Vous voyez que ça n'est pas François Michaud, a priori. Mais Marielle de Mirébel, hein, qui est donc formatrice à Mediadis, hein, donc conservateur de bibliothèque et chargée de formation à Mediadis, hein, qui a bien voulu, je la remercie vraiment très très chaleureusement, me dépanner vraiment au pied levé, puisque François Jacques a loupé un avion et m'a téléphoné ce matin à 8h. Michaud, pardon, c'est les deux François, il est là. François Michaud a téléphoné à 8h en disant qu'il ne pouvait pas être là. Donc Marielle va non pas le remplacer, mais donner un point de vue plus de formateur, en fait, hein, sur ce sujet. Alors bon, nous allons être assez minutés, donc je vais rapidement cadrer sans insister là-dessus le pourquoi de ce sujet. Bon, avoir l'affluence, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Donc cette table ronde a été proposée par Formist, donc là il y a parallèlement des petites cartes postales qui doivent circuler. Et il y en a, s'il n'y en a pas assez, il y en a sur le stand de l'ENSIB. Donc nous sommes un service de l'ENSIB qui propose donc sur son site web des ressources pédagogiques dans le domaine de la formation des usagers à l'information. Ce site s'adresse pour l'instant prioritairement aux étudiants et à leurs formateurs, ceci dans le cadre des bibliothèques universitaires, de la formation en université et en bibliothèque universitaire. Ça fait maintenant plus de 3 ans que le site existe. Au niveau formation des usagers en BU, on commence à avoir pas mal de retours et on sait que c'est une donnée qui est relativement bien structurée. En revanche, nous nous posons des questions sur ce qui se fait en bibliothèque publique, sachant que c'est beaucoup plus fragmenté, diversifié, mais dans le cadre notamment d'un travail que nous faisons sur notre nouveau site, nous pensons qu'il est intéressant d'avoir aussi un retour sur ce qui se fait de votre point de vue et savoir si on pourrait intégrer éventuellement certains de vos besoins. Donc voilà le pourquoi. Je pense que quand on travaille sur la formation des usagers, à un moment ou à un autre, on se dit, bon, voilà ce qui se passe en BU, qu'est-ce qui se passe en bibliothèque municipale ? Alors, je n'insisterai pas sur le paysage qui a énormément changé dans les bibliothèques publiques ces dernières années, et ni sur le fait que les nouvelles technologies, qu'on les appelle NTE, NTIC, NTI, ont quand même, et puis donc l'émergence d'Internet a complètement bouleversé ce qui se faisait dans la plupart des établissements. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de formation avant, ni qu'il n'y a pas d'autres types de formations que celles aux nouvelles technologies qui existent dans les bibliothèques, qu'elles soient publiques ou universitaires. Donc l'idée est donc de dire que ce bouleversement technologique a accentué un petit peu ce qui se faisait déjà. D'où l'intérêt de cette réflexion, en fait. Donc là, pour commencer, je vais demander à chacun des intervenants de se présenter, alors là, très brièvement, c'est-à-dire de dire un peu qui il est, qui, surtout comment est son, quel est son établissement et quelle est la position de son établissement par rapport à la formation des usagers. Après quoi, en fait, on va aborder quelques thématiques. Alors, bon, 1h30, c'est franchement très court, on ne va pas tout aborder. On abordera quelques questions en espérant peut-être vous laisser sur votre faim et pouvoir continuer sous une autre forme par la suite. Donc je laisse la parole.
Bonjour, je suis donc Jean-François Jacques, je dirige la médiathèque d'ici les Moulineaux depuis 10 ans. Après une expérience, deux expériences successives en région Rhône-Alpes. Alors, très rapidement, moi j'ai juste un premier point de vue, parce que je vais essayer là ce matin d'adopter plus une position de témoignage sur des choses qu'on a pu mettre en place, qu'on a pu développer ou qui se sont développées dans les établissements que j'ai dirigés, parfois de manière assez spontanée. La première ambiguïté, c'est que formation des usagers, je crois que très souvent on ne l'entend que dans le sens très restrictif, qui est d'ailleurs une des missions données aux bibliothèques, par exemple par la charte du Conseil supérieur des bibliothèques, qui est les bibliothèques ont un rôle de formation des usagers aux méthodes de recherche des documents, ainsi qu'à l'utilisation des réseaux documentaires. Alors c'est déjà très large, surtout avec la deuxième proposition. Par contre, c'est vrai que la charte continue en affirmant que toute collectivité publique doit assurer l'accès des citoyens à la formation. Alors, sans plus de précision, c'est un champ qui peut se révéler énorme. Je me suis référé aussi à de nombreuses reprises d'ailleurs dans l'action, y compris par rapport aux élus, parce que ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourra aborder, mais j'ai un peu l'expérience du fait que souvent les élus nous disent comment rôle formation dans une bibliothèque, dans une médiathèque, est-ce bien le rôle d'une bibliothèque ou d'une médiathèque ? Le manifeste de l'UNESCO dit bien, parmi nos missions clés, vous savez la douzaine de missions qui sont déclinées, soutenir à la fois l'auto-formation, ainsi que l'enseignement conventionnel à tous les niveaux. Alors ça, c'est quelque chose qu'on sait intuitivement, la bibliothèque comme lieu d'auto-formation, on le sait à travers la lecture, mais on le pratique de plus en plus à travers l'utilisation directe par les usagers de méthodes, de didacticiels, de produits d'auto-formation, qui nécessite peut-être, c'est ce dont je m'aperçois au fil du temps, qui nécessite absolument un accompagnement. Et puis, autre mission, faciliter le développement des compétences de base pour utiliser l'information et l'informatique. On y reviendra aussi. Mission numéro 12, soutenir les activités et les programmes d'alphabétisation en faveur de toutes les classes d'âge, y compris participer et mettre en œuvre de telles activités. Tout ça, c'est bien de la formation. Donc je crois qu'on reviendra tout à l'heure sur la typologie d'actions possibles. Je pourrais vous décrire quelques-unes des actions que nous avons pu mettre en place, mais mon point de vue est bien celui-là.
Oh, bonjour, je m'appelle Mamadou Seck, je suis responsable adjoint du pôle multimédia et bureautique de la médiathèque de Vénissieux. Donc c'est ma directrice qui devait être présente ici pour vous parler un peu de notre projet. Il se trouve qu'elle n'a pas pu et donc je la représente. Ce que je vais vous livrer, ce ne sera pas une recette, mais c'est plus une réflexion que je vais vous livrer. Parce qu'en fait, la médiathèque de Vénissieux est ouverte depuis le 21 septembre 2001. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore mis en place des formations. Et pourtant, on est bien conscient que dans une structure de cette taille, c'est bien d'accompagner l'offre de services à des formations, que ce soit pour Internet ou pour le catalogue. Pourquoi donc cette réflexion et cette importance, ou cette place en tout cas de la médiathèque de Vénissieux ici? C'est que c'est un établissement qui a quand même 5000 m², dont 3500 disponibles au public. On a à peu près deux salles destinées à la formation, dont une salle multimédia avec une douzaine de postes et une salle bureautique avec une douzaine de postes. En dehors de ça, le multimédia est réparti un peu dans la médiathèque sur les 40 postes que je vous ai avec des accès dédiés. Donc c'était important que toute cette offre-là et cette disponibilité puisse être accompagnée de formation. Mais c'est vrai que des situations conjoncturelles ont fait qu'on n'a pas pu mettre tout ça en place en amont. Et aujourd'hui, on est ouvert depuis un an et on ne fait que de l'assistance au public. Et donc aujourd'hui, je passe vous dire un peu les grands axes sur lesquels on compte travailler pour accompagner cette offre. Donc c'est sur Internet plus particulièrement. C'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure sur l'introduction, tout ce qui est formation existait au préalable, ne serait-ce que sous forme de visite ou sous forme de signalétique, sous forme de guide de lecteur, en tout cas tous ces produits documentaires qui accompagnent l'offre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la problématique Internet, la formation devient quelque chose de plus accentué, parce qu'en fait, il y a un média entre le contenu de ce qu'offre Internet et puis l'outil informatique. Donc, il y a ce manque de maîtrise de l'outil qui est même des fois très, très basique, à savoir tenir une souris. Je pense que c'est quelque chose qui est. Donc, il faut accompagner les gens pour qu'ils puissent arriver quand même à s'approprier cette offre-là. Donc, nous, on a pensé. On peut travailler sur Internet avec des niveaux bien différents, évidemment, entre initiés et des formations de perfectionnement. On a pensé travailler aussi, parce que je n'ai pas décrit un peu la population de la médiathèque. On est une ville de 56 000 habitants avec une population culturellement défavorisée. Donc beaucoup de demandeurs d'emploi et beaucoup de jeunes. Donc on a pensé aussi faire une formation sur tout ce qui est aide à la recherche d'emploi. Ça, parce qu'on a eu on a sur place des outils qui sont destinés à cela, avec des collections imprimées qui s'appellent formation, une thématique formation emploi. Et puis aussi, on a un espace bureautique. C'est un espace qui est délocalisé, c'est un espace qui était dans la ville. Et les personnes qui s'occupaient de cet espace accompagnaient les gens dans la rédaction de CV, lettres de motivation, candidature et autres. Donc on a pensé que dans une ville comme Vénissieux, c'était important de mettre en place l'aide à la recherche d'emploi, mais toujours sur des thématiques de ce genre. Et après, c'est vrai qu'on reviendra aussi parce que dans la discussion, on aura à parler des outils classiques et des outils modernes actuellement sur la formation. Ben, on reprendra ces outils classiques qui sont les visites de groupe avec un accompagnement, comment s'approprier le catalogue de la médiathèque, comment déchiffrer topographiquement l'organisation de la médiathèque, parce que d'une médiathèque à une autre, c'est tout à fait différent. Surtout pour Vénissieux, on a choisi vraiment le thème des modules. Donc c'est une organisation assez, assez compliquée. Donc la formation aura trois axes prioritaires, et ces trois axes-là, donc, pour résumer, c'est l'Internet, l'aide à la recherche d'emploi et les visites de groupe. On s'appuie aussi sur un très, 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 très grand réseau de partenariats parce que l'environnement vénitien, il n'y a pas beaucoup de cybercafés, il n'y a pas, le multimédia n'est pas présent dans la ville et la médiathèque est conçue comme vraiment un point d'accès pour la population. Donc, on travaille beaucoup avec les institutions municipales, les associations, partenariat avec l'ANPE, les missions locales. Donc, avec ces partenaires-là, on fait des choses particulières, toujours sur la base de la formation. Donc, je développerai un peu plus quand on abordera les différents axes qui ont été évoqués.
Bonjour. Donc moi je m'appelle Marielle de Méribel. Je travaille à Médiadis, qui est un centre de formation au métier du livre en Île-de-France. Il y en a 12 en France. Donc j'interviens ici plutôt à titre de formateur, puisque avec une de mes collègues, Françoise Écart, qui est directrice de la médiathèque de la BDP des Yvelines, on va donc pardon. On va publier au CERF de la librairie un livre qui s'appelle Concevoir et animer des formations en bibliothèque. Donc c'est vrai que c'est un peu cet aspect-là de formation. Quand on est bibliothécaire, comment devenir formateur, que ce soit pour des utilisateurs, que ce soit pour des collègues, ou encore des bénévoles, ou des étudiants, enfin bon, des stagiaires. Donc effectivement, si on reprend plutôt cet aspect de formation, le fait d'être bibliothécaire n'induit pas automatiquement d'être formateur, qui est un métier parallèle. Et c'est vrai que les bibliothécaires ont beaucoup de métiers parallèles dans leur sacoche. Donc en voilà un autre à rajouter en plus. Et pour avoir une formation, disons que quand on devient formateur, l'idée c'est d'être efficace par rapport à l'action qui demande quand même beaucoup de moyens et beaucoup de disponibilité et beaucoup d'enjeux. Et disons que ce qui me paraît important, c'est d'appuyer la formation sur trois critères importants qui sont le premier, une pédagogie pour adultes, donc tout à fait différente de la pédagogie qu'on a appris quand on était à l'école. Ensuite, ça s'affirmer, enfin prendre comme point de départ les besoins et les attentes des stagiaires qu'on a en face de soi, et donc des utilisateurs qu'on a en face de soi. Et troisième point, utiliser un certain nombre d'éléments de communication basiques, hein, qui ne font pas partie du cursus de bibliothéconomique, mais qui sont très utiles dans la relation d'aide, qui est un peu notre relation à nous, bibliothécaires.
Merci. Donc après cette brève présentation, je pense qu'on va aborder un peu la première thématique qui semble absolument indispensable. C'est un essai de typologie des différentes formations qui sont proposées. Donc logiquement, on va également trouver peut-être les outils dont parlait Mamadou Seck il y a quelques instants. En tout cas, quelques essais aussi de définition de ce qu'est la formation. Et puis bon, donc surtout, essentiellement, quels types de formations sont dispensées actuellement dans nos établissements. Donc je vais peut-être repasser la parole à Jean-François Jacques pour commencer. Il va y avoir un peu un point de vue croisé des différents intervenants sur ce sujet, et après quoi on prendra un petit temps de questions, hein, de débat avec la salle, qui sera forcément pas très long, mais qui sera intéressant, j'espère.
Bien, je vais essayer d'être le plus synthétique possible, justement, pour laisser le plus de place au débat. Au départ, dans les missions définies pour la bibliothèque d'ici les Moulineaux, avant sa construction, la formation des usagers ou l'utilisation de la médiathèque comme lieu de formation par les usagers apparaissait en filigrane, mais sans que soit décliné particulièrement un grand nombre de services à mettre en place, sauf un qui était mettre en place un laboratoire de langue. Donc effectivement, on est bien là complètement dans un des premiers aspects, une des premières propositions que peut faire un service. L'idée venait tout simplement de l'application dans cette médiathèque de banlieue de services et de méthodes expérimentées et rodées à la BPI. Et pour lesquels on disait, bah tiens, puisque ça semble utile et très demandé et répondre à un besoin du public à la BPI, pourquoi pas dans une médiathèque de ville de banlieue. Par derrière, il y avait quand même un projet fort de la médiathèque qui était mieux toucher deux publics, et en particulier les adultes au travail. Les adultes au travail plus les adultes pas au travail, en situation de demandeur d'emploi, mais en partant du postulat, qui se vérifie partiellement d'ailleurs, mais qui se vérifie quand même, que les demandeurs d'emploi ont des besoins relativement identiques aux salariés, en tout cas dans les mêmes domaines. Mais ont peut-être des besoins dans le domaine de l'auto-formation beaucoup plus importants. Donc il nous a semblé que, en dehors simplement de collections particulièrement orientées vers les besoins des salariés, la mise en place de produits d'auto-formation pouvait être un des éléments propres à mieux attirer, mieux fidéliser ces publics-là. Donc, dès le départ, mise en place laboratoire de langue. On s'est vite aperçu, quand on a commencé, on a ouvert au public en 1994, on s'est vite aperçu que l'utilisation autonome par des usagers des méthodes de langue sur les supports traditionnels, en particulier la cassette à piste magnétique, trouvait très vite ses limites. Et le public, très très rapidement, nous a dit, c'est bien beau, mais sans tuteur, on ne va pas très loin. C'est pour ça que lorsque une des associations qui existait sur la ville, qui gérait un cours d'anglais, a décidé de cesser cette activité, alors qu'il y avait une très forte demande, qu'il y avait plusieurs dizaines d'adultes qui suivaient ces cours, lorsque la ville m'a dit cette association arrête, mais est-ce que par hasard la médiathèque ne pourrait pas accueillir cette activité dans ses locaux, j'ai tout de suite dit, non seulement on peut l'accueillir, mais on peut l'organiser et en faire un service à part entière en prolongement de l'offre laboratoire de langue. Donc on a développé, on a recruté dans l'équipe de la médiathèque deux professeurs d'anglais à mi-temps, et on a un atelier cours d'anglais. À l'heure actuelle, 180 adultes suivent ces cours d'anglais qui ont lieu toute la journée, 4 jours par semaine, dans les locaux de la médiathèque. C'est vrai que la mutation fondamentale des méthodes de langue, qui maintenant sont toutes sur CD-ROM et qui sont infiniment et plus efficaces sur CD-ROM, parce que le CD-ROM introduit un tuteur automatisé, mais un tuteur quand même, hein, un tuteur capable d'entendre et d'analyser ce que dit, ce que profère l'élève, et de l'obliger à se corriger, pourrait venir en concurrence avec cette offre de formation tutorée, professorale, qui est un cours d'anglais. Pas du tout. Au contraire, les deux éléments s'enrichissent l'un l'autre. L'intérêt d'offrir aussi un laboratoire de langue en libre accès, on l'a vu très vite, par rapport à cette cible du public salarié, parce que un certain nombre d'entreprises sont venues nous demander si elles ne pouvaient pas payer, elles, au titre de l'entreprise, l'inscription à la médiathèque, et maintenant d'ailleurs payer, elles, au titre de l'entreprise, le cours d'anglais, pour le faire entrer dans la formation permanente du salarié. Alors, c'est très intéressant, ça se heurte à une limite, c'est quelque chose qu'on peut aussi évoquer. Là, on est bien dans l'univers de l'auto-formation non validée, non validable. Hein, on peut toujours certifier que telle personne a bien utilisé le laboratoire de langue pendant X heures, on peut certifier que telle personne a suivi assidûment le cours d'anglais pendant toute l'année. La médiathèque n'est absolument pas en position de certifier ou de valider les acquis de la personne. Mais c'est déjà, ça nous a amené à réfléchir beaucoup à notre rôle, à nous demander si d'autres thématiques ne pouvaient pas se développer de la même manière. Bon, pour la petite histoire, on a aussi ouvert depuis septembre dernier un cours de chinois, premier niveau, bon, qui est lié à une activité propre à la collectivité. Il se trouve que la collectivité est jumelée avec un quartier de Pékin, que la médiathèque de Silmouino est jumelée avec son homologue de Chongwen, de ce district de Pékin, et qu'on a des échanges constants. Mais c'est lié aussi au fait que la ville a fait énormément pression pour qu'il y ait un cours de chinois qui se développe au lycée. Maintenant, il y a une option chinois au lycée de Silmouino. Et du coup, la demande est forte. La demande existe, elle est forte, et il nous a semblé tout naturel d'y répondre. Voilà, ça c'est pour l'aspect langue. Dans l'émission des bibliothèques, je l'ai dit tout à l'heure très très rapidement, il y a un autre domaine qui peut être abordé par nos équipements dans le domaine de la formation, c'est celui de l'alphabétisation. Ce domaine-là, je crois, ne peut pas être abordé et directement organisé par nous dans l'état actuel des choses. Pourquoi pas ? Ça pourrait être faire partie des missions données par la ville. Mais je crois que nous sommes très mal situés pour ça, pour une raison très précise. C'est que nous sommes quand même, d'une certaine manière, même si beaucoup de bibliothèques travaillent hors les murs, nous sommes quand même enfermés dans nos murs, ou en tout cas étroitement liés à nos murs. Or, un vrai travail d'alphabétisation nécessite une très très grande proximité par rapport aux populations concernées. Par contre, nous avons expérimenté avec pas mal de succès ce que peut vouloir dire d'accueillir dans les locaux de la médiathèque des cours d'alphabétisation en allant un peu au-delà, là encore, du simple accueil physique, mettre une salle à disposition et puis attendre que les choses se passent. Là, il y a un partenariat qui est aussi très intéressant et qui permet justement cette action de médiatisation qui, à travers une formation et la réponse à un besoin de formation vécu à l'extérieur de l'équipement, les formateurs extérieurs, c'est-à-dire les associations qui pratiquent l'alphabétisation, sont mises en situation de médiateurs des publics vers l'équipement. Et ça, je crois que c'est un aspect très, très intéressant. C'est peut-être un des autres axes qu'on peut réfléchir, c'est-à-dire que la médiathèque comme lieu d'une offre de formation développée qui n'inclut pas forcément le bibliothécaire comme formateur. Simplement, quand au fil des échanges, les collègues du secteur jeunesse ont montré aux moniteurs d'alphabétisation que les albums pour enfants pouvaient être un excellent support au cours d'alphabétisation, qu'en plus, une bonne partie des personnes en situation d'alphabétisation formation sont des jeunes mères de famille qui ne travaillent pas, récemment immigrées, etc. Et qu'il y a là une forme d'ouverture vers les autres publics, et y compris la petite enfance. On est là dans une problématique qui est finalement très riche. Alors, on peut aborder aussi, je vais très vite, hein, l'initiation aux nouvelles technologies. Mon collègue de Vénissieux l'a dit très clairement. On se heurte là immédiatement à quelque chose qui est pour moi, toujours un assez grand étonnement. On est quand même dans une société qui utilise très largement cet outil, hein, qui est la micro-informatique. Maintenant, plus largement, plus de la moitié des métiers utilisent l'informatique au quotidien. Et puis, il y a la place accordée à l'apprentissage de cet outil dans l'enseignement à tous les stades reste extrêmement faible. Il y a des formations, effectivement, essentiellement liées à la formation continue, à la formation tout au long de la vie, mise en place par les entreprises pour apprendre à bien utiliser tel ou tel logiciel, apprendre à mieux se former à Word ou bien au logiciel spécifique que l'on a à utiliser dans son métier. Hein, on connaît ça dans nos collectivités. On va former les agents de la comptabilité à l'utilisation du logiciel de gestion de la M14, etc. Mais l'apprentissage global de l'outil n'est pratiquement jamais fait. À chacun de se débrouiller. Alors, on se débrouille toujours avec l'auto-apprentissage. Je crois qu'on est un peu tous passés par là dès qu'on est dans une bibliothèque informatisée. Mais en même temps, on sait très bien que on n'utilise que très partiellement les possibilités de l'outil quand on reste à ce stade de l'auto-apprentissage. La demande est extrêmement forte et elle est immédiatement visible. On a proposé à Issy-les-Moulineaux des ordinateurs au public en libre accès dès 1994, dès l'ouverture de la médiathèque. Très vite, on a proposé des CD-ROM, on a proposé un accès à Internet. Et très vite, on s'est aperçu que les gens venaient nous demander, effectivement, comme disait mon collègue tout à l'heure, mais comment on utilise la souris ? On a été amené dès le départ à mettre en place là des formes structurées de formation du public sous forme de petits cours ou d'ateliers qui sont comme ça thématiques, le premier contact avec l'ordinateur. Comment accéder à Internet, et puis comment créer sa messagerie sur Internet. Ça s'est ensuite développé et on a décliné vers d'autres formes, en particulier cette forme liée à cette mission que nous avons de travailler avec les salariés des entreprises et avec les demandeurs d'emploi. Là, on va beaucoup plus loin puisque les outils utilisables par les demandeurs d'emploi pour faire de la recherche d'emploi en utilisant l'Internet, annuaire des entreprises, didacticiel accessible par Internet sur comment faire un bon curriculum vitae, utilisation de la messagerie pour envoyer simultanément une candidature et un CV à un grand nombre d'entreprises. Là, on entre dans une complexité assez grande. À partir du moment où on offre l'outil de base, c'est-à-dire l'ordinateur, plus les produits annuaires des entreprises ou les didacticiels, on s'aperçoit qu'on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter là tout simplement parce que le public vient demander immédiatement « Je suis sur tel produit, je suis bloqué, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Alors, soit on se contente, nous, de spécialiser quelques personnes dans la médiathèque, à mieux connaître ces outils, à former l'usager à les utiliser, mais comme ça, au fil de la demande, et usager par usager, soit, et c'est beaucoup plus efficace, on finit par dire, eh bien, tel jour, à telle heure, atelier, comment faire son CV, comment envoyer son CV sur Internet, etc. Donc, on a fini par construire une offre véritable, et même par spécialiser un agent qualifié du patrimoine qui s'est intéressé à ça, qui a lui-même suivi et formation de formateur et formation à l'utilisation de la micro-informatique et qui est en quelque sorte, dont c'est une des fonctions principales. Alors, il y a d'autres, dans notre typologie de la formation, hein, il y a d'autres choses possibles qui sont peut-être moins évidentes, qui font moins évidemment partie du rôle formateur de la médiathèque. À partir du moment où on développe des cycles de conférences, par exemple, dans une médiathèque, là encore, on entre, qu'on le veuille ou non, dans une situation de formation, parce que c'est utilisé comme ça par le public. Et on s'en est aperçu sur tous les plans. On a, par exemple, initié un cycle de conférences Histoire de l'art, avec comme thématique les grandes expositions